En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques planche cette année sur l'Europe. Tous les lundis, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie s'exprime en salle des séances. Cette année, c'est la construction européenne qui est au programme. Honneur cette semaine à l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors. Voici sa communication intitulée « La construction européenne, hier, aujourd'hui et demain ». Une communication prononcée le lundi 5 janvier 2004 en salle des séances que nous rejoignons tout de suite.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Mesdames, Messieurs les académiciens, alors que débute cette année que votre Académie a décidé de consacrer à l'Europe, on ne peut pas dire que la situation soit très engageante. Certains s'interrogent, d'autres parlent d'une période de doute, partagée d'ailleurs par les gouvernements, d'autres enfin parlent de crise. C'est pourquoi, me semble-t-il, il est important de jeter un regard sur le passé pour essayer d'en tirer des enseignements qui pourraient être utiles aujourd'hui. Je ne résisterai pas à ce point de mon exposé au tout début de vous faire une citation de Robert Schuman devant l'Assemblée nationale du Conseil de l'Europe le 13 août 1950, c'est-à-dire quelques semaines après la fameuse déclaration du 9 mai. Il disait, je cite, « Nous ne croyons pas être présomptueux en disant que la proposition qui a été faite et acceptée, si elle devient une réalité, implique des virtualités que nous ne pouvons pas encore mesurer, mais qui se développeront rapidement dans le sens de l'unification complète, économique et politique de l'Europe. » Fin de la citation. On trouve dans ce texte, me semble-t-il, cette combinaison de vision, de foi, de réalisme et de prudence qui ont toujours inspiré les phases les plus dynamiques et les plus heureuses de l'Europe. Ne l'oublions jamais. Je vous soumets trois enseignements à tirer de l'avenir en ayant déjà un regard sur le futur. Le premier est le suivant. La communauté ne pouvait que s'élargir si l'on veut bien accepter en permanence la confrontation de son idéal avec les exigences de l'histoire. La seconde est que la question de la méthode, et donc des institutions, mais pas simplement des institutions, a toujours été au cœur de la problématique européenne. Et enfin, troisièmement, certains historiens ont parlé de miracles à propos de moments décisifs de la construction européenne. Si on accepte cette formule audacieuse, d'où peut venir aujourd'hui le miracle? La communauté ne pouvait que s'élargir. Au commencement, pour reprendre une formule de l'Évangile, était l'idéal et la nécessité. L'idéal, c'était bien entendu la paix. Et n'oublions jamais que ceux qui ont lancé ou relancé l'idée européenne, car elle est plus vieille, n'oublions pas que nous vivions à ce moment dans un climat de peur, de méfiance de l'autre, et que la guerre allait se déclarer en Corée. Donc l'idéal, c'était, pour reprendre une formule qui n'a été utilisée que plus tard par Hannah Arendt, le pardon et la promesse. Le pardon, ce qui n'est pas l'oubli, à ceux qui ont provoqué ces sinistres événements, et la promesse que les générations qui suivraient les intéressés ne seraient pas à jamais écartées de la communauté humaine ou de la communauté que nous voulions former, nous les Européens. Cette formule, je l'ai toujours trouvée magnifique. Et aussi la nécessité. Je ne veux pas abuser de citation, mais on retrouverait, dès les années de guerre, chez les inspirateurs de l'Europe, le refus du déclin de l'Europe. Et n'en soulignera jamais assez ce point en ne parlant que de la paix. Puis vinrent beaucoup d'événements, dont une adhésion qui est encore à discuter, celle de la Grande-Bretagne, et une réussite exemplaire, ce fut l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Une adhésion encore discutée, celle de la Grande-Bretagne. Quand Robert Schuman lance son projet charbon-acier, Macmillan lui répond sèchement que les Anglais ne laisseront jamais une autorité extérieure décider de la fermeture des puits ou des aciéries. Puis, nous commençons à 6, il crée l'Association européenne de libre-échange, un acte de compétition, sinon d'hostilité. Puis vint la période du général de Gaulle, 63-67, son double refus de la Grande-Bretagne, enfin Wilson et Pompidou et Hiss, qui arrivent à un accord en 1973, qui aboutit à l'entrée de la Grande-Bretagne avec l'Irlande et le Danemark. Si j'en parle en quelques mots, c'est parce que, pour tous les Européens convaincus, la Grande-Bretagne est une énigme. Est-ce qu'un jour ou l'autre, elle se convertira à l'Europe ou à l'intégration européenne, pour parler en termes institutionnels, ou bien restera-t-elle toujours un pied dedans, un pied dehors? Cette question est vraiment importante. Elle a toujours préoccupé ceux qui avaient en charge la construction européenne. Je rappellerai d'ailleurs qu'un des discours les plus célèbres en faveur de l'Europe est celui de Winston Churchill à Zurich, et que quelques semaines après, Winston Churchill précisait bien que ce projet concernait l'Europe continentale et que la Grande-Bretagne en aucun cas n'adhérait ni à un projet d'intégration totale ni à un projet d'intégration partielle. Puis vint la réussite exemplaire, celle de l'Espagne et du Portugal, des pays qui avaient longuement préparé ce passage de système de dictature et d'économie corporatiste à un système de démocratie et d'économie ouverte. Ce fut, je vous le rappelle, l'objet d'un débat passionné en France. Je pourrais citer des déclarations de responsables actuels étant hostiles à cette adhésion. Et pourtant, ce fut, à mon avis, un des petits miracles de l'Europe. Et grâce aux efforts de ces pays, mais aussi aux politiques de solidarité menées en Europe, la situation a radicalement changé. On peut donc dater le moment d'indécision, non pas après mon départ de la Commission européenne, ce serait trop simple, mais quand j'y étais encore, en 1992, au Conseil européen de Lisbonne, où la Commission, sur un rapport d'un de mes vice-présidents, M. Andriessen, disait « Bon, il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs perspectives d'élargissement, mais peut-être qu'avant, il faudrait penser l'organisation de la maison. Sommes-nous prêts pour accueillir tous ces candidats et autres ?» Ce préalable fut écarté d'un revers de main par le Conseil européen, pour des raisons multiples, dont certaines tiendraient du nez de Cléopâtre, mais enfin, elles existent. Et depuis, on peut dire, on a le sentiment d'une fuite en avant et d'un refus de réfléchir sur, au même une question simple, non pas quelles sont nos finalités, mais comment préparer une décision, comment la prendre et comment l'exécuter. Et ce sont ces questions qui, aujourd'hui, ne sont pas les seules, sont quand même au cœur de la problématique européenne. Et enfin, le défi historique résultant de la chute du mur de Berlin. J'ai toujours soutenu, pour ma part, que le dernier élargissement, enfin celui qui va venir, était un bonheur pour l'Europe, mais que nous n'étions pas préparés politiquement et même institutionnellement. On peut même ajouter, sans froisser personne, qu'en France, nous sommes peu préoccupés de prêter attention à ces pays et d'expliquer à nos concitoyens la nécessité historique, mais aussi le bonheur de l'élargissement. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui, avec une perspective qui ne doit pas être trop française, parce que le fait que l'élargissement soit considéré par beaucoup de nos concitoyens comme un objet de crainte, de souci, n'est pas partagé par d'autres pays qui sont déjà dans l'Europe. Donc il faut bien comprendre que l'effort d'explication de l'élargissement en France doit être plus large et plus profond qu'ailleurs. La question de la méthode. Si elle intervient en deuxième part dans mon exposé, c'est parce que on peut parler du quoi faire. Et sur le quoi faire, sur les finalités de l'Europe, tout a été dit. Que de discours lyriques avons-nous entendu, mais on néglige très souvent le comment faire. Et de ce point de vue, après avoir rappelé ce qui n'a rien à voir avec cette question, mais pour ne pas l'oublier, l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, qui a quand même eu des conséquences. Je veux dire que sur le comment faire, la matrice exemplaire, la matrice inspirée, reste le traité de la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est la naissance du triangle institutionnel, Parlement, Conseil des ministres, Commission, qui s'appelait à l'époque Haute Autorité, et c'est la naissance et la mise à l'épreuve de la méthode communautaire, celle qui permet à une institution qui a le monopole du droit d'initiative de proposer au Conseil des ministres de décider et au Parlement à l'époque d'être consulté, aujourd'hui d'être devenu un co-décideur. À mon avis, cette méthode communautaire, qu'il ne faut pas confondre avec la stratégie communautaire, est vraiment importante. Et c'est elle qui explique, avec aussi des moments d'euphorie, le fait qu'elle a été reprise par le traité de Rome. Elle a bien fonctionné jusqu'en 1962. Rappelez-vous les débats en France sur le traité de Rome, y compris de la part du patronat français, assez réticent, et le fait que le général de Gaulle, bien que qu'ayant dit beaucoup de vilaines choses sur l'Europe, avait accepté de ratifier et de mettre en œuvre. Mais après cette période, où l'on voit certainement un fait historique constant, quand les gouvernements sont d'accord et décident, ils sont dans une période d'euphorie. Et les choses vont plus vite. Et au Conseil des ministres, on commence à décider. Et c'est ainsi que l'on a appliqué le démantèlement des droits de douane, la politique agricole commune avant bien les échéances prévues. Mais après, on commençait les querelles. J'en rappellerai les éléments essentiels. Une querelle strictement politique, c'est-à-dire le rapport Fouché, demandé par le général de Gaulle, en 1960 à 1962, l'hostilité de plus en plus grande des pays du Benelux, de l'Italie et de l'Allemagne à ce projet, rectifié en dernier ressort de la main même du général de Gaulle, qui en avait aggravé les propositions aux yeux de nos partenaires, les audaces imprudentes de la Commission, ce qui n'a rien arrangé, M. Hallstein, le président de la Commission, ayant perdu, à mon avis, le sens des réalités, avait fait une, sous prétexte de tenir les promesses sur la politique agricole commune, avait fait un paquet avec le financement et autres, et l'avait présenté à un Parlement européen purement consultatif avant d'en parler au Conseil des ministres. Et bien entendu, M. Couve de Murville, au nom de la France, a vivement protesté contre cela et a pratiqué la politique de la chaise vide pendant 6 mois. Et de cela a résulté un des textes les plus admirables, si l'on peut dire, de l'histoire européenne, le compromis de Luxembourg, agrit ou disagrit, si je peux me permettre de parler en anglais, on est d'accord pour tomber sur le fait que l'on n'est pas d'accord. Et cette période-là a continué pendant des années, c'est-à-dire des périodes où l'on n'avance vraiment pas, on ne recule pas non plus. Et ce qui est important pour quand même garder un fond d'optimisme, c'est que lorsque sont arrivés des événements trop forts pour l'Europe telle qu'elle était, le dégagement du dollar par rapport à l'or, la hausse des prix des produits pétroliers, en dépit des avis et des analyses très lucides de la Commission, et notamment de M. Raymond Barre, les gouvernements étaient incapables de prendre des décisions. Et ils ont oscillé en matière monétaire, de serpent en non-serpent monétaire, de cadrage en non-cadrage, jusqu'à un événement qui tient aussi du miracle, c'est-à-dire l'accord entre M. Giscard d'Estaing et M. Schmitt, sur une proposition aussi de M. Jenkins, le président de la Commission, pour la création du système monétaire européen. Et l'on peut dire que sans ce système monétaire européen, tel qu'il a fonctionné, avec bien entendu des difficultés liées au mouvement des monnaies, sans la preuve, les preuves ou les commencements de preuves apportés par le système monétaire européen, il eût été impensable de songer à une union économique et monétaire. Et cela nous amène à une période de relative optimisme pour longtemps, car la Grande-Bretagne se réveille et Madame Thatcher ne veut pas payer autant pour un budget européen qui, dit-elle, comporte 50% de dépenses agricoles qui n'intéressent nullement la Grande-Bretagne. Cette querelle a duré de 81 à 84. Et il a fallu tout le talent de la présidence française et de M. Mitterrand en particulier pour résoudre les différents contentieux qui s'étaient ajoutés à la querelle du chèque britannique. Et c'est ainsi qu'ayant réglé les querelles de famille, un nouveau départ était possible, et ce qui a été tenté par l'engrenage de l'objectif 92 du grand marché, de l'acte unique, rappelé par le président Michel Albert, et des politiques communes. Mais cet engrenage, qui n'est pas la méthode communautaire, qui est plutôt le reflet d'une stratégie, cet engrenage ne doit pas faire oublier sur le plan institutionnel un point fondamental, le bon fonctionnement du duo entre le Conseil des ministres et la Commission. C'est ce duo qui a travaillé et qui a préparé des conseils européens où l'essentiel était seulement à l'agenda et pas le superflu, ce qui permettait au Conseil européen de décider. Et c'est un élément de méthode qui évidemment n'a rien à voir avec les grandes considérations historiques, on ne voit jamais les chefs d'État de l'époque assez heureux que lorsqu'ils avaient 3 ou 4 questions présentées par des courts papiers à décider. Et à ce moment-là, croyez-moi, ils étaient bien meilleurs que leurs ministres et tous leurs fonctionnaires pour décider. Puis le système s'est grippé à nouveau. Pourquoi? Est-ce que c'est les limites de l'engrenage? C'est-à-dire le fait qu'après le marché unique, il y avait la monnaie unique. Et moi, je n'ai jamais cru que la monnaie unique entraînerait l'intégration politique de l'Europe. Alors, il y a peut-être eu un défaut dans l'engrenage, d'autant plus que le système monétaire européen ne fonctionne pas dans un équilibre comme souhaité par mon rapport et par le traité entre le pilier économique et le pilier monétaire. Toujours est-il que la venue de l'euro, l'enthousiasme que cela a pu susciter, n'ont en aucun cas permis un nouvel engrenage dynamique de la construction européenne. Je crois que c'est la première raison. Et il faut bien se rendre compte que l'intégration économique n'entraîne pas ipso facto l'intégration politique. En second lieu, le triangle institutionnel est passé au second plan. En dépit des pouvoirs nouveaux du Parlement européen, il semble qu'aujourd'hui, ce triangle institutionnel n'est plus capable de préparer les décisions et de faire prendre les décisions quand c'est nécessaire par le Conseil européen. Et celui-ci s'est imaginé qu'il pouvait tout faire. D'ailleurs, on le voit avec des conclusions qui font 40-50 pages. On voit même des fois un chef de gouvernement, la veille du Conseil européen, demander au président de celui-ci d'inscrire un nouveau point à l'ordre du jour. Donc c'est la plus belle traduction ou la plus mauvaise traduction des mauvais côtés de l'intergouvernemental. Car rien n'est préparé à l'avance et tout se décide ou ne se décide pas au niveau du Conseil européen. Alors à partir de là, on peut se poser 3 questions qui n'ont pas été résolues jusqu'à présent. Premièrement, peut-on faire un pas de clarification par référence à la double réalité, souvent reprise par nos chefs de gouvernement, Europe des nations et Europe des peuples? Je parle là d'un point de vue purement institutionnel. C'est pour ça que j'avais proposé la Fédération des États-nations, persuadé que les nations ne sont pas appelés à disparaître, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait en ligne avec les origines du mouvement fédéraliste qui attribuait à la nation la seule cause des guerres en Europe. C'était beaucoup plus compliqué que cela. Et la fédération, parce que le système fédéral ou la méthode fédérale est la seule qui permet de décider, préparer une décision, je le répète, et la prendre, et l'exécuter ensuite. Et de ce point de vue, on peut dire que la convention est un pas en avant et une réussite. Car il est quand même assez positif de voir tous ces parlementaires nationaux, au début de la Convention, en marge un peu de ce milieu bruxellois où les parlementaires européens étaient à leur aise, on les a vus peu à peu prendre de l'importance, se saisir du sujet et aboutir, non pas à cette unanimité, mais à ce large consensus qu'avait pu constater le président Giscard d'Estaing. Deuxième question à propos des institutions. L'ingénierie du triangle institutionnel, dont j'ai parlé, peut-il revenir en force? Pour ça, il faudrait que l'on arrête de croire que l'intergouvernemental a des mérites. Que l'on refuse l'intégration de certains aspects de notre souveraineté dans l'Europe, c'est un point. Et donc, on peut dire que l'Europe des nations et l'Europe des peuples, c'est un compromis entre l'intergouvernemental et le communautaire. Mais que on fasse de l'intergouvernemental la seule source possible de décision en Europe sous prétexte que les intérêts nationaux sont en cause, revenir à cet état d'esprit, car il s'agit d'une ambiance d'un état d'esprit, c'est à mon avis aller dans une impasse pour l'Europe. Et deuxièmement, pourront-on faire revenir la Commission au cœur du dispositif? Ce qui signifie que celle-ci soit au service des compromis à dégager entre les pays membres en usant le mieux qu'elle peut de son droit d'initiative. Et enfin, troisième question, toujours institutionnelle, Le défi du nombre peut-il être surmonté? C'est une vraie question. Parce que déjà à 15, quand on fait un tour de table, vous imaginez, entre ceux qui disent toujours les mêmes, je m'expliquerai brièvement, leurs collègues savent ce à quoi ils s'attendent, et ceux qui attendent le bon moment pour parler, puis pour descendre immédiatement à la salle de presse pour faire part de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ressentent, c'est très difficile. Donc il faut de nouvelles méthodes de travail à cause du nombre, et ceci dépasse le mécano institutionnel, même si celui-ci a beaucoup d'importance. Mais on peut trouver des moyens, mais pas ici que je vais les décrire, pour résoudre le problème du nombre du point de vue de la délibération et de l'expression des opinions. En revanche, il y a un point sur lequel nous, en ce moment, nous reculons. Les gouvernements s'exaspèrent. C'est ce qu'on appelle, d'un mot que Général de Gaulle aurait pu inscrire dans son Volapük, la différenciation. C'est-à-dire la possibilité pour certains pays d'aller plus vite ou d'aller autrement que les autres, tout en maintenant le cœur de l'intégration européenne. Aujourd'hui, quand on parle de différenciation, les uns mentionnent l'avant-garde, d'autres les coopérations renforcées, pardonnez-moi, c'est-à-dire les possibilités minces offertes par le traité d'Amsterdam et Nice de faire quelque chose à côté et en plus. Et pourtant, mesdames et messieurs, la différenciation a toujours existé et c'est elle qui a permis à l'Europe d'avancer. La différenciation, c'est d'abord les années de transition accordées à l'Espagne et au Portugal, 7 années. Imaginez que du jour au lendemain, ces pays qui étaient plus avancés à l'époque que ne le sont aujourd'hui les pays de l'Europe de l'Est, imaginez que ces pays aient été plongés tout de suite dans la contrainte de la législation communautaire et du marché. Donc la différenciation a toujours existé. S'il n'y avait pas eu la différenciation, il n'y aurait pas eu de traité de Maastricht. Car je vous rappelle que l'on a, selon une formule empruntée à l'anglais, accordé des opting out, des possibilités de ne pas appliquer certains aspects du traité à la Grande-Bretagne et au Danemark. La Grande-Bretagne en a usé pour l'Union économique et monétaire et pour le chapitre social que depuis M. Blair a ratifié. Et enfin, je vous pose la question. S'il avait fallu attendre que les 15 pays soient d'accord pour faire l'euro, où en serions-nous aujourd'hui? Donc c'est une mauvaise querelle qui est en train de s'engager à cause des intransigences des nouveaux candidats qui disent l'avant-garde, l'Europe à deux vitesses, nous n'en voulons pas, c'est scandaleux, appuyé d'ailleurs par la Grande-Bretagne. Et de l'autre côté, les menaces implicites, notamment de l'Allemagne et de la France, pour dire attention, si vous continuez comme ça, nous allons faire une avant-garde. Donc, transformer ce qui est un problème de fond, vital pour l'avenir de l'Europe, en querelle tactique du moment, c'est dégrader et même condamner des idées qui ont permis à l'Europe d'avancer. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui que, pour aller au fond de ma pensée, je ne crois pas que l'Europe des 25, je l'appellerai pour des commodités la Grande Europe, puisse réaliser tous les objectifs du traité de Maastricht dans les 20 ans qui viennent. Il me semble que si, d'ici 2025, l'Union européenne à 25 et demain à 27, et grâce à Dieu, demain plus si les pays de l'ex-Yougoslavie arrive à s'adapter quelque peu politiquement, démocratiquement et économiquement à cette donne européenne. Imaginez, si en 2020-2025, ces pays ont consolidé la paix entre eux, ce qui veut dire la compréhension mutuelle entre les peuples, ce qui veut dire le règlement des problèmes des minorités, et Dieu sait s'il y en a. S'ils ont fait de l'Union européenne un cadre pour un développement durable et solidaire, offrant une solution partielle aux problèmes posés par la mondialisation. Et si enfin ils ont brillamment entretenu leur diversité culturelle, je pense que les historiens diraient que l'Europe a réussi son pari. Quant à l'union économique et monétaire, à la politique étrangère, à la politique de la défense, laissons ça à ceux qui peuvent et veulent le faire. Je devrais même changer les termes, je veux dire qui veulent le faire et qui peuvent le faire. Mais une idée comme cela, aujourd'hui, dans le climat d'exacerbation qui est celui entre les chefs d'État, c'est avoir l'arrière-pensée d'une Europe à deux vitesses. Mais si l'on n'arrive pas à retrouver un climat qui permette de discuter clairement et simplement de ces options, alors je crains que l'on s'enfonce dans des compromis de plus en plus maigres, et notamment quand on parlera des perspectives financières de l'Union européenne. D'ailleurs, la bataille est déjà lancée, comme chacun sait. Alors, et faut-il attendre un nouveau miracle? Bon, j'ai employé cette formule d'un diplomate belge à propos d'une réunion de Venise en mai 56, avant le traité de Rome, des ministres des Affaires étrangères. Un travail préalable avait été fait par un groupe dirigé par M. Spack. Les miracles, en 2 heures, ils sont arrivés à se mettre d'accord et à préparer les voies pour l'établissement du traité de Rome, les traités du marché commun et de l'Euratom. Je rappellerai qu'à l'époque, même des Européens prestigieux pensaient que le traité de l'Euratom était plus important que les traités du marché commun. Mais après tout, l'histoire est faite comme ça. Alors, s'agissait-il d'un rapport bien fait, d'une ambiance heureuse, ou bien encore de la pression des faits? Je n'ose pas garder pour moi cette formule de Christian Pinault, car cela se passait au moment de l'expédition désastreuse de Suez. Christian Pinault a dit « ce fut le tournant du match ». Et par conséquent, les pays se dirent quand même « toujours la question du déclin, peut-on en rester là ?» Mais à l'avance, pas de miracle quand s'opposent des conceptions intransigeantes liées à une certaine conception de la nation d'un côté et à un intégrisme fédéraliste de l'autre, car il existe cet intégrisme. La relance de 1985, dont le président a aimablement parlé, est dans une certaine mesure un miracle. Miracle d'abord de Fontainebleau, où les différents contentieux ont été réglés, et miracle du fait que dire à des pays qui, dans les années précédentes, Michel Cantu le sait bien, avaient peu de croissance, perdu 2,5 millions d'emplois pour 10 pays, leur dire, et si nous faisions un vrai marché commun, qui nous permettrait de stimuler nos entreprises, nos activités, la compétition entre nous, cette idée venait au bon moment. Mais elle tenait quand même un petit peu d'une situation extrêmement favorable et pour tout dire, chanceuse. Et à partir de là, est né un nouvel engrenage. On peut parler d'un autre miracle à Maastricht. Mais là encore, surtout avec l'union économique et monétaire et les débats de la dernière nuit du Conseil européen. Mais avec un traité beaucoup moins réaliste, est beaucoup plus flamboyant, un peu à la française, en ce qui concerne la dimension politique de l'Europe. Mais là aussi, les faits ont joué leur rôle. Je vous rappelle que les Européens, devant la tragédie yougoslave, étaient cruellement divisés. Et qu'à ce moment-là, ils ont pensé qu'étant divisés sur la Yougoslavie, il fallait au moins que vis-à-vis du monde et d'eux-mêmes, ils trouvent un sujet d'entente pour faire progresser l'Europe. Pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais il y a toujours, dans l'histoire de l'Europe, la pression des faits, une ambiance, une conjoncture plutôt favorable et des idées qui conviennent. Depuis Maastricht, les Européens n'ont pas trouvé ou n'ont pas su créer une conjonction aussi favorable des esprits et des événements. La chute du communisme ne les a pas inspirés autant que l'histoire le demandait. Je ne parle pas du lyrisme. Je ne parle pas de ceux qui disaient à ces pays « en 2000, vous serez en Europe ». Je ne parle pas de l'échec fâcheux, mais dû à son initiateur de la Confédération de François Mitterrand. Et plus tard, dans le fond, les divisions sur l'Irak, que la presse a accueillies comme une surprise, n'ont fait que confirmer ce que l'on savait depuis longtemps. Nos pays sont divisés sur la politique étrangère. Pour certains d'entre eux, la nostalgie est toujours ce qu'elle était. Et par conséquent, ce qui s'est passé pour l'Irak était largement attendu. Face à cette situation, est-ce que la capacité d'indignation des Européens est toujours la même? Je vous citerai à ce propos un point de vue exprimé par Paul-Henri Spaak après avoir fait beaucoup pour l'Europe, il a démissionné de la présidence du Conseil de l'Europe en décembre 1950. C'est ces propos qui, je pense, devraient nous inspirer. Devant un tel spectacle, celui de l'Europe à l'époque, nous sommes impassibles, comme si l'histoire attendait, comme si nous avions le temps de transformer nos mentalités. de supprimer nos barrières douanières, d'abandonner nos égoïsmes nationaux, comme si nous avions l'éternité devant nous. Ce thème, il faut le reprendre aujourd'hui, pour essayer de secouer la satisfaction des uns, l'indifférence des autres. D'où naîtra donc le nouveau miracle? Je laisse de côté la différenciation, j'en ai parlé, mais à mon avis, il naîtra de la volonté de l'Europe de survivre comme un ensemble géopolitique et économique susceptible de maîtriser autant que faire se peut la mondialisation et comme dans son acte de naissance, au nom de l'idéal de paix, faire reculer la guerre, l'intolérance et le mépris de l'autre qui ne fait que ronger notre présent. En conclusion, je voudrais tout d'abord plaider pour préserver la méthode et donc le moteur de l'Union. Et je le répète pour la troisième fois, m'excusant, et je m'adresse là aux petits inventeurs de génie, de nouveaux mécanos, de nouvelles institutions, de nouvelles instances, de nouveaux présidents. Il faut trouver un mécanisme qui prépare de préparer les décisions, de les prendre, de les appliquer et de les expliquer avec une participation plus importante des parlements nationaux, ce qui devrait être possible puisque la Convention l'a proposé. Deuxièmement, ne pas attendre une nouvelle agression de l'histoire qui nous pousserait à nous unir pour mieux agir. Quel drame devrait-il arriver à l'Europe? Quel signal qu'au moins quelques chefs d'État clairvoyants pourraient saisir pour nous permettre de nous ressaisir, de sortir de cette ambiance morose, de ces petits jeux à court terme qui semblent et qui ravisent d'ailleurs nos diplomates, ceux du Quai d'Orsay comme les autres. Mais surtout, mesdames et messieurs, et ce n'est pas une proposition institutionnelle, ce n'est même pas une proposition politique, vous la trouverez peut-être idéaliste, il faut retrouver le trésor des fondateurs. Ce trésor des fondateurs, il tient en quelques mots. Une vision de l'avenir. Une foi en l'Europe et en son héritage, aussi divers fut-il. Ce qui veut dire qu'on respecte le passé et qu'on le rappelle dans les traités. Le cœur qui vous rapproche de l'autre, et enfin le réalisme dans la mise en œuvre progressive de ce qui demeure, qu'on veuille ou non, la grande aventure de l'Europe contemporaine. Je vous remercie.
C'était Monsieur Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. Nous venons d'écouter sa communication sur la construction européenne, hier, aujourd'hui et demain, prononcée devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 5 janvier 2004.